RCF.
Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Les Neveux de René, Chemin de Pensée. Donc cette émission est dédiée à l'étude de quelques textes de philosophie et nous sommes à cette quatrième émission. Donc notre parti pris est de commencer à lire des textes de philosophie, montrer qu'ils ne sont pas difficiles en soi, mais qu'ils peuvent être compris à la lumière de quelques éclairages et de quelques interrogations. Alors Nicolas, tu veux nous faire le résumé du dernier épisode ?
Lors de la dernière séance, nous avons continué notre chemin à travers l'œuvre de Platon rapportant les discours prononcés par Socrate lors de son procès. Et cette œuvre, c'est l'Apologie de Socrate. Après le travail de dépaysement des deux premières séances, nous nous sommes posé beaucoup de questions la semaine dernière. Pourquoi d'abord avoir besoin de l'oracle d'un dieu pour se mettre à philosopher ? Philosopher, n'est-ce pas plutôt faire appel à la raison ? Une réponse fut apportée pour un savant du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'ordre du monde est un ordre divin. Il n'y a aucune contradiction. Nous nous sommes aussi interrogés sur le rôle politique des enquêtes que Socrate a menées pour comprendre l'oracle de Delphes, qui lui avait appris qu'il était le plus sage des hommes. Enquêtes qui ont conduit Socrate à mettre en évidence de nombreuses fois que ses interlocuteurs de toutes conditions sont des ignorants qui croient savoir. Nous avons simplement relevé que Socrate proclame qu'il s'est ainsi rendu utile à la cité et à chacun de ses concitoyens, les invitant à prendre soin de leur âme. Il faudrait peut-être aller plus loin sur cette question. Nous nous sommes enfin interrogés sur le crédit à accorder à la doctrine de Socrate. Déjà à l'époque, on lui riait au nez. Que dire aujourd'hui à l'époque de la com, de la pub ? À l'époque où les descendants des rhéteurs dominent et mènent le monde, à l'époque où la réussite personnelle passe avant la réussite collective, où la réussite sociale se manifeste avant tout par la capacité d'assouvir ses désirs. Socrate a manifestement échoué. Certes, ce n'est pas parce qu'il a échoué à convaincre qu'il a tort. Par exemple, il met en garde contre le mal qu'on se fait à soi-même en ne pratiquant pas la justice et les vertus. L'état du monde présent tend à montrer que les hommes se font effectivement beaucoup de mal à eux-mêmes. Mais néanmoins, cet échec interpelle. De plus, Socrate fait appel à des mythes, faisant apparaître l'idée de rétribution post-mortem, de jugement après la mort, pour justifier la nécessité du soin de l'âme et d'une vie juste. Si, comme la majorité des Européens aujourd'hui, on ne croit pas à l'immortalité de l'âme, que reste-t-il de la doctrine de Socrate ? Va-t-on y croire ? Que peut nous apporter Socrate aujourd'hui ? Ces questions n'ont pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante. Cela ne signifie pas forcément que les animateurs de cette émission ont déjà atteint leur seuil d'incompétence, mais plutôt, enfin je l'espère, que nous avons posé des questions qui n'appellent pas une réponse immédiate, évidente, mais provoquent réflexion et méditation. Bref, cela signifie que nous avons commencé à poser des questions philosophique.
Merci Nicolas. Alors vous êtes en compagnie de Nazim Fates, Nicolas Lemoine, Sylvain Contasso-Vivier. Alors tu disais de manière provocante, avons-nous atteint notre seuil d'incompétence ? Alors peut-être on peut dire une chose par rapport à ça, c'est qu'en philosophie, la notion de compétence, finalement, elle n'existe pas vraiment, puisque en philosophie, il semblerait, si on suit Socrate, qu'il s'agisse toujours de s'étonner. Alors, on entend souvent, il y a des gens qui disent « Ah bah toi, tu es fort en philo, moi j'ai fait qu'une année en terminale, ça m'a barbé, j'en ai plus jamais fait. » Alors, est-ce que, la question que je voulais vous poser, la première question, c'est est-ce que finalement Socrate, il n'apprend pas qu'il n'y a pas de compétence philosophique, ou du moins que la seule compétence, c'est toujours s'étonner.
Peut-être, oui.
Donc voilà, bon, ça c'était par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on peut dire par rapport aux auditeurs, c'est que la philosophie consiste à s'acheminer vers la vérité par l'examen des choses, ou avoir un regard sur la vérité, un recul, Et ce n'est pas, y a pas un cours à apprendre avec première leçon, deuxième leçon, troisième leçon.
Oui, c'est ça. Hein. Socrate, effectivement, sa ligne de conduite, sa démarche, c'est vraiment le questionnement. C'est déjà de s'interroger sur les choses et souvent même sur les choses qu'on croit comprendre et connaître, en fait. Hein, et notamment la question du savoir et le fait que, bien souvent, dans sa petite enquête hein, dont on avait parlé la dernière fois, il se rend compte que les gens croient savoir plus de choses qu'ils ne savent vraiment.
Alors, deuxième chose que je voudrais, pour réagir à ce que tu as dit, Nicolas, tu as parlé de la doctrine de Socrate. Il me semble que ce terme est impropre parce que précisément, il n'y a pas de doctrine de Socrate. Il y a une œuvre d'investigation, comme le dit Sylvain. Il y a quelque chose qui consiste à enquêter tout le temps sans cesse.
Alors, il y a quand même des exigences de vie justes.
Voilà, exactement. Mais il n'y a pas de doctrine au sens que Socrate nous dirait ce qu'il faut faire au quotidien.
En détail, mais le peu qu'il dit est déjà refusé par la plupart des gens.
Voilà. Peut-être
et toi-même as manifesté la semaine dernière des doutes presque impies envers Socrate.
effectivement. Donc la question à laquelle on a été arrivé, c'est nous autres habitants du 21e siècle, on a un rapport trouble avec ce mot « âme ».
Oui.
Il nous met mal à l'aise. Il nous met mal à l'aise parce que tout de suite, on le rapporte à ce qui va suivre, à savoir à l'âme vue à travers les religions monothéistes. Mais je pense que chez les Grecs, ce mot âme dit quelque chose d'autre. J'ai bien aimé la réaction d'une amie de l'atelier philo auquel nous participons, qui disait « l'âme, c'est ce que je suis moi, c'est ce qui fait que je suis moi et pas quelqu'un d'autre ». Et cette définition, elle m'a marqué. Je trouve qu'elle est belle, elle a sa beauté. Comment vous voyez les choses? Si jamais vous êtes en face, Socrate était en face d'un interlocuteur qui dit « je ne sais pas ce que c'est que l'âme », autrement dit, je pense fortement qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme, est-ce que pour autant le texte de l'Apologie de Socrate est à jeter aux oubliettes?
Je pense que non, moi. Peut'être en a-t-on trop fait à propos des mythes de rétribution post-mortem dont parle Socrate. D'abord parce que dans l'argumentaire qu'il donne à la fin, il dit qu'il a raison qu'il y ait quelque chose après la mort ou non. On pourra relire ce passage tout à l'heure. Et puis, le rapport au sacré ne fait pas nécessairement appel à une vie après la mort. Ce que je disais juste avant de commencer l'émission, c'est que les anciens juifs, par exemple, ne se préoccupaient pas de ce qui se passait après la mort. Et pour eux, après la mort, on descendait au silence, on n'était plus rien. Par exemple, j'ai sous les yeux la finale d'un psaume qui dit « Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur. » Maintenant et pour les siècles des siècles. C'est un texte qui montre que finalement, on peut avoir un rapport à une loi divine, la crainte d'un Dieu, mais qui s'exerce chez les vivants, sans nécessairement avoir donc la crainte de ce qui se passera après la mort.
Oui, enfin c'est quand même assez curieux, puisque du moins chez les Grecs, si on en retourne chez eux, les vivants, c'est les mortels, les dieux, c'est les immortels. Donc, en quelque sorte, les dieux sont ceux qui résistent au temps.
C'est vrai.
Donc,
ceux qui ne changent pas pour Platon.
Ceux qui ne changent pas ou
qui ne devraient pas changer.
Donc, à mon avis, il y a toujours quelque part chez Platon et peut-être aussi dans les traditions monothéistes, qui sont très différentes de celles des Grecs, quelque chose qui nous dit « attention, si je ne me comporte pas bien maintenant, ça ira mal après, quoi. » Juste pour simplifier. Hein.
Mais le « après », ça peut être pendant la vie. C'est-à-dire qu'on peut être menacé de catastrophes qui touchent la cité, la cité des vivants. On peut être menacé de maladie, on peut être menacé de perdre ses richesses, on peut être menacé de mourir, justement. Et quelque part, il faut prendre au sérieux. Alors, ces menaces qui étaient interprétées comme une punition divine, comme dans le cadre d'une théologie du dieu de la colère, ce que craignaient les juifs, mais on peut réinterpréter ce dieu de la colère comme étant des catastrophes qui surgissent suite à des processus sociaux qu'on peut réduire à des processus sociologiques ou psychologiques et qui conduisent réellement à des catastrophes qu'on ne se conduit pas comme Socrate appelle à le faire.
D'accord. Est-ce qu'on peut lire l'extrait de l'Apologie où il est question de l'attitude de Socrate face à la mort, peut-être, puisque Socrate a été accusé, donc il s'est défendu. Comme on l'a dit, il s'est défendu un peu à la façon dont il a l'habitude de faire, donc par le raisonnement. Il a échoué, donc Socrate a été condamné, et dans les procès en Grèce ancienne, on était autorisé à parler de nouveau pour fixer la peine.
Quand la peine n'était pas prévue par la loi.
Quand la peine n'était pas prévue par la loi. Et donc c'est le cas maintenant. Et on va entendre ce que dit Socrate lors de cette deuxième phase. Alors, par rapport à la classification, à la pagination estienne, donc la pagination de référence.
On est en 29A, oui.
On est en 29A, voilà.
Au
alors,
milieu,
nous écoutons Sylvain.
Qu'est-ce en effet, juge, que craindre la mort ? Sinon, s'attribuer un savoir qu'on n'a point. N'est-ce pas s'imaginer que l'on sait ce qu'on ignore ? Car, enfin, personne ne sait ce qu'est la mort, ni si elle n'est pas, par hasard, pour l'homme le plus grand des biens. Et pourtant, on la craint, comme si l'on savait qu'elle est le plus grand des maux. Comment ne serait-ce pas là cette ignorance vraiment répréhensible, qui consiste à croire que l'on sait ce qu'on ne sait pas ? Donc voilà le premier passage, hein, la première partie. Alors, après, il parle un petit peu de l'au-delà, justement, de l'Hadès. Et ce qui va être intéressant, c'est peut-être le passage un petit peu plus loin, en 29C.
Oui.
Où, justement, il reprend un petit peu sur le fait qu'il soit acquitté ou pas, en fait, hein, par rapport à la mort. Aussi bien, supposons que vous m'acquittiez. En dépit d'Anitos, qui vous a dit « Ou bien il ne fallait pas que Socrate comparût devant vous, ou bien, ayant comparu, il faut absolument qu'il meure. » Car s'il était acquitté, a-t-il ajouté, vos fils qui mettraient en pratique ce qu'il enseigne ne manqueraient pas de se perdre entièrement. Admettons que, malgré cela, vous me teniez ce langage. Socrate, nous ne voulons pas en croire Anitos. Nous allons t'acquitter. À une condition toutefois, c'est que tu ne passeras pas plus ton temps à examiner ainsi les gens ni à philosopher. Si on t'y reprend, tu mourras. Cette condition-là, juge, si pour m'acquitter vous vouliez me l'imposer, je vous dirais, Athéniens, je vous séguerai et je vous aime, mais j'obéirai au Dieu plutôt qu'à vous. Et tant que j'aurai un souffle de vie, tant que j'en serai capable, soyez sûrs que je ne cesserai pas de philosopher, de vous exhorter, de vous faire la leçon à qui de vous je rencontrerai.
Merci. Alors, est-ce que ça illustre ce qu'on disait sur Socrate et son attitude et par rapport à la question de la mort et la question de sa place dans la cité? Est-ce qu'on peut pas dire que son œuvre d'investigation, c'est un bienfait pour la cité? C'est-à-dire...
Tout à fait, mais peut-être il faudrait nous-mêmes enquêter davantage pour comprendre en quoi est-ce un bien.
Oui, en quoi est-ce un bien? C'est-à-dire, est-ce qu'un emmerdeur, un provocateur, pour dire les choses
comme
vulgairement, ouais, voilà, est-ce que c'est un bienfait pour la cité? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que dans son lieu de travail, par exemple, on aime bien avoir les gens qui posent des questions? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas être comme les Athéniens, dire « Oh, y en a marre de ces gens qui nous enquiquinent quelle est notre attitude face à ceux qui posent des questions? On peut se la poser nous-mêmes, finalement.
Bien, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve, si on est dans un état d'esprit philosophique ou dans un état d'esprit productiviste, peut-être.
Oui, tu veux dire que notre temps, c'est celui du productif, d'une certaine efficacité.
C'est cela,
que,
oui.
D'ailleurs, le rapport au temps, c'est drôle parce que Socrate dit toujours à ses interlocuteurs, est-ce que tu as le temps? Si tu as le temps, on discute. Ouais, si t'es pressé, c'est pas la peine.
Et la question du temps réapparaît dès le début du procès en disant, quand Socrate dit que malheureusement le procès durera trop peu de temps pour qu'il puisse convaincre et réfuter toutes les accusations et toutes les calomnies qui ont été prononcées sur lui.
Alors par rapport justement à l'intérêt de ce que fait Socrate finalement, il le dit lui-même, hein, justement à la suite du texte que je viens de dire, hein, on peut lire d'ailleurs le petit passage qui est pas très long, où il explique justement un petit peu l'intérêt, en fait, de ce questionnement qu'il fait, hein, aux gens. Donc là, il parle, il va citer en fait, simuler une sorte de dialogue avec un Athénien qu'il rencontrerait. Et je lui dirai, comme j'ai coutume de le faire, « Quoi, cher ami, tu es Athénien, citoyen d'une ville qui est plus grande, plus renommée qu'aucune autre pour sa science et sa puissance, et tu ne rougis pas de donner tes soins à ta fortune pour l'accroître le plus possible, ainsi qu'à ta réputation et à tes honneurs. Mais quant à ta raison, quant à la vérité, quant à ton âme, qu'il s'agirait d'améliorer sans cesse, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes pas. »
Oui, alors ça c'est important que tu aies dit, Sylvain, qu'il simule un dialogue avec un Athénien. Puisque ça, on voit, alors on a conseillé à nos auditeurs de commencer par exemple leur découverte de la philosophie ou redécouverte de la philosophie par ce texte de l'Apologie de Socrate. Et ce texte a des qualités, mais il a un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur, contrairement aux autres dialogues socratiques. Mais on voit que même quand il n'y a pas d'interlocuteur, Socrate pratique encore sa méthode dite dialectique. Donc dialectique, c'est le dia qu'on entend dans diamètre, qui dit traverser de part en part. Et lectique,
par le moyen d'eux aussi.
Par le moyen d'eux. Et le dialectique, c'est le logos, donc la parole, mais un certain type de parole. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, l'extrait que tu as donné, Sylvain, parce qu'il montre bien que Socrate, toujours, il est dans la dialectique, même quand il est seul, finalement, même qu'il est dans la maïtique. Et dans la fonction politique, à mon avis, de Socrate, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il nous force nous-mêmes à toujours nous demander si on est cohérent avec nous-mêmes. Et au fond, même si on n'a pas un interlocuteur, on doit être l'interlocuteur de soi-même pour se demander. Alors, je propose de faire une petite pause musicale et nous reprenons après l'écoute de Jacques Brel sur la place.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certain jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi certain jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté.
RCF Lorraine-Nancy, votre radio locale.
Vous êtes sur l'émission Les Neveux de René, Chemin de Pensée, en compagnie de Nazim Fattès, Nicolas Lemoine, Sylvain Contasso-Vivier. Donc nous étions en train de parler de la position de Socrate dans le texte qui s'appelle l'Apologie de Socrate. Et nous nous interrogions sur sa fonction politique et en quoi la fonction de l'âme avait quelque chose en rapport avec la construction de la cité telle que Platon va la penser. Alors, une toute petite question destinée à Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire, Nicolas, pourquoi tu as choisi cet extrait ?
Eh bien, en fait...
Il est un peu lugubre, non ? Ou un petit...
Si on avait... Tragique.
Tragique.
Eh bien, en fait, j'y ai pensé en lisant le texte de présentation de l'émission que tu as donné pour le site internet de l'émission sur le site de rcf.fr. Le texte commence par « Pauvre et nu, la philosophie nous interpelle ». Eh bien, donc d'abord, la philosophie, c'est un nom féminin. Et cette lumière, à nos yeux, ça m'a fait penser à l'un des derniers textes que Platon a écrit dans sa vie, une lumière qui apparaît à nos yeux, même si on ne la comprend pas, même si on n'est pas capable de la justifier rationnellement. Donc bah, tout ça, ça m'a fait penser à cette chanson de Jacques Brel, à la fois la pauvreté de Socrate, sa place sur le marché, sur la place publique, et puis cette lumière qui paraît et à laquelle, devant laquelle souvent nous restons passifs et sommeilleux.
Merci Nicolas, parce que là, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis très, très étonné que tu fasses cette référence, dernier texte. Alors, tu fais sans doute référence à la lettre 7 écrite par Platon, voilà. Alors ça, je vais profiter de prendre la balle au bon et lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Platon et l'Europe », qui est écrit par un professeur de philosophie tchèque qui s'appelle Jan Patočka, et dont la vie peut d'une certaine façon s'identifier à Socrate. On ne va pas pouvoir rentrer dans les détails, mais il a été interrogé par la police tchèque à l'époque et il a perdu la vie lors d'un interrogatoire musclé, ou je ne sais pas comment dire. Mais page 104, nous avons donc ce petit extrait qui dit « L'âme de l'examen questionnant diffère de l'âme de la doxa, en ceci qu'elle est une âme réfléchie qui demeure au contact de ce qui est fermement délimité, pur et précis. L'âme qui a le souci d'elle-même est donc en mouvement, s'éloignant de l'indétermination immédiate pour se rapprocher de la réflexion qui délimite et définit. La philosophie réside en ce mouvement, qui est un mouvement effectif. La philosophie se saisit et se démontre par le fait, par l'acte. Il n'y a aucune preuve purement objective de la philosophie telle qu'il en existe pour les sciences mathématiques. Les théorèmes mathématiques qui ne concernent ni n'affectent notre être et sont indépendants à son égard. Comme le philosophe proprement dit réside en ce mouvement, son affaire ne peut être ni édifiée sur ni raccrochée à rien au ciel ou sur la terre. Elle se constitue à la manière d'une étincelle qui, pour reprendre la comparaison de Platon, jaillit soudainement pour ne plus s'alimenter que d'elle-même. Voilà. Et je trouve que nous pouvons, en quelque sorte, clore ce premier cycle d'émission sur cette réflexion qui nous est donnée par Patočka, à savoir que l'âme en examen, qui cherche quelque chose de précis, de ferme à laquelle se rattacher, c'est justement quelque chose qui n'est pas comme les sciences mathématiques. C'est tout à fait différent. Ça ne peut pas se formaliser, ça ne peut pas s'écrire. Et c'est cette étincelle qui va naître un jour et grandir. Et voilà.
Donner une conscience.
Et donner quelque chose de mystérieux. Alors, je ne sais pas si vous voulez commenter à chaud cet extrait que je viens de vous lire.
Oui. Pour revenir à notre débat sur savant ou sage qui nous a occupé lors d'une précédente émission, finalement, le sage, ce n'est pas forcément le vieux barbu qui se met à l'abri, mais ça s'appelle justement ce regard extérieur sur le savoir, sur le pouvoir, sur toutes sortes de choses, ce regard qui s'étonne et qui questionne.
Donc ça, c'est ta définition de la philosophie, finalement.
Et de la sagesse.
Et de la sagesse.
Par rapport à la science.
D'accord. Sylvain, tu veux commenter ?
Je suis assez d'accord avec ça, hein, effectivement. D'ailleurs, c'est assez amusant si on s'amuse à reprendre la définition de sagesse dans un dictionnaire, par exemple Larousse. On voit qu'il y a plusieurs définitions. Bien sûr, déjà, il y a plusieurs sens aujourd'hui du mot. Alors, on peut avoir idéal supérieur de vie, proposé par une doctrine morale ou philosophique, un jugement droit sur averti. Ça peut être aussi prudence, ça peut être modération, tempérance. Et alors, c'est intéressant aussi au niveau de la théologie, puisque c'est le discernement dans les choses de l'ordre du divin.
Oui, alors ça, c'est très intéressant, parce que le discernement dans l'ordre du divin, ça peut se rapporter au monde grec aussi, puisqu'il s'agit du mot grec « théoria ». « Théoria », c'est voir les choses dans la pleine contemplation. Et si on reprend donc ce qui est dit tout le long de la philosophie, on pourrait dire « c'est porter le regard dans ce qui est ».
D'ailleurs, je pense que Socrate serait plus proche de cette cinquième définition.
Tout à fait, tout à fait. Alors ça demande aussi, ça va nous demander à ce qu'on y revienne. Alors, on va proposer aux auditeurs de se procurer le texte de l'Apologie, de le lire, de le méditer.
Si ce n'est pas déjà fait.
Si ce n'est pas déjà fait, effectivement. et puis, nous allons, pour la séance prochaine, pour la semaine prochaine, quitter le monde grec.
Oh oui, après le dépaysement, retour au pays, retour en France, voilà, du 17e siècle.
Donc les neveux de René vont enfin pouvoir s'attaquer à cette montagne de la philosophie qu'est René Descartes. Et donc aussi, nous pouvons proposer aux lecteurs, aux auditeurs, de se procurer le discours de la méthode afin de commencer à le lire. Et les prochaines séances seront consacrées à l'étude de René Descartes. Merci, à bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur philo@rcf.fr. Vous pouvez réécouter les émissions passées en podcast. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, lisez les textes, et c'est le meilleur moyen de méditer la philosophie. Merci, à la semaine prochaine. Thank you.